Il est 10h, les informations locales et régionales. Félix-Antoine, on parle de réfection du pont de la Rivière-des-Airs. Le ministère de l'Environnement entamera là, des vérifications à la suite de la réception d'une vidéo préoccupante.
Le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques confirme avoir entamé des vérifications après la réception d'une vidéo montrant un employé œuvrant à la réfection du pont de la Rivière-des-Airs à Maniwaki qui lance à l'eau des sacs de sable de ciment. Bien que le ministère des Transports du Québec affirme qu'il s'agit bel et bien d'une opération qui était prévue dans le cadre des travaux, le ministère de l'Environnement s'assurera tout de même que la loi sur la qualité de l'environnement et les règlements en vigueur ont été suivis à la lettre par l'employé visible sur la vidéo. Sophie Gauthier, porte-parole régionale pour le ministère, indique qu'en fonction de la conclusion de son analyse, le ministère s'assurera de donner des suites appropriées en respect avec sa directive sur le traitement des manquements. Il y a environ 2 semaines, CIGA FM a obtenu une vidéo montrant un employé lançant à l'eau des sacs s'apparentant à des poches de ciment. Après vérification, il s'avère qu'il s'agit de sacs de sable de ciment qui durcissent au contact de l'eau et qui ont été déposés dans la rivière afin de stabiliser un affouillement sous la pile de la structure du pont. Ces sacs forment une ceinture de protection qui permet le bétonnage de l'affouillement de la pile. D'ailleurs, le MTQ affirme qu'un élément important ne figure pas sur la vidéo de quelques secondes qui a été filmée par un citoyen de la région. Le ministère mentionne que des plongeurs étaient aussi présents dans l'eau afin d'aller déposer les sacs au bon endroit.
Les maisons se font rares du côté de Blue Sea. L'école à volets alternatifs remporte un vif succès.
À la municipalité de Blue Sea, l'arrivée de l'école à volets alternatifs a changé bien des choses. Une nouvelle dynamique dans la municipalité se ressent avec les activités faites par l'école. Un autre marché où l'on ressent l'arrivée de l'école à volets alternatifs est celui de l'habitation. Il semble que le manque de maisons disponibles à l'achat est un nouveau phénomène. Voici le maire de Blue Sea, Laurent Fortin.
Il n'est plus avant, non. C'est ça, c'est exact. C'est rien qu'un promoteur pour essayer d'en faire bosser parce que, comme tu disais, le monde, c'est pour ça que le monde veut mieux s'établir. Parce que si tu demeures au Blue Sea, c'est préféré aux autres pour l'école alternative.
Les élus de Blue Sea n'ont pas l'intention de laisser les choses ainsi. Il est déjà question que le conseil municipal prenne les choses en main en allant chercher des subventions et des promoteurs immobiliers pour bâtir de nouveaux logements. On écoute à nouveau Laurent Fortin.
Même le nouveau conseil. Moi, j'ai envie de commencer à travailler là-dessus. Essayer d'aller chercher des grosses subventions pour du logement. C'est un projet assez officiel parce que pour grossir le village. Parce que l'école, ils ne pensaient pas que ça serait un gros succès de même. Puis c'est un succès, un très grand succès.
Pour les courtiers immobiliers de la région, Blue Sea est une municipalité plus difficile par les temps qui courent. Il reste des maisons, mais pas de maisons abordables. Stéphanie Lirette-Brennan, courtière immobilière chez Proprio Direct, mentionne que certains de ses clients ont dû acheter ailleurs.
Moi, j'ai eu quelques clients, oui, que ça les intéressait, mais malheureusement, vu le manque de maisons, ils ont dû acheter ailleurs et aller dans d'autres écoles. Mais oui, le volet alternatif à Blue Sea, ça intéresse beaucoup de parents.
Pour les courtiers, en fait, un heureux problème du côté de Blue Sea. Des actions seront prises dès janvier pour tenter de rectifier le tir.
Vaccination maintenant de 5 à 11 ans. 60 jeunes Val-Gatinois vaccinés après une première fin de semaine.
Parmi les 1400 enfants Val-Gatinois de ce groupe d'âge, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais confirme que depuis le début de la campagne, 60 d'entre eux ont été vaccinés, ce qui correspond à une couverture vaccinale de 5 % pour ce groupe d'âge. Dans l'ensemble de l'Outaouais, le taux de la couverture vaccinale chez les 5 à 11 ans est de 14 %. La moyenne provinciale est de 10,5 %. Plus de 5 000 enfants de l'Outaouais ont reçu le vaccin et plus de 7 500 rendez-vous ont été réservés depuis le lancement de cette campagne de vaccination. D'après le site web de Clic Santé, plusieurs plages horaires sont toujours disponibles au site de vaccination de Maniwaki les dimanches 5, 12 et 19 décembre afin de recevoir un vaccin contre la COVID-19. Le 6 de l'Outaouais invite la population à réserver donc un rendez-vous sur la plateforme Clic Santé. Et cette semaine, c'est dans les écoles que ça va se faire.
OK.
Donc, on va aussi suivre sur l'évolution de ça, savoir combien on en a vacciné, dans quelle école, c'est quoi les prochaines écoles. Donc, on est sur le cas.
Parfait, Félix-Antoine, midi.
Oui, je l'ai. Il est juste là.
Ça s'en
vient. Écoute, en fait, non, mais je l'ai, là.
OK, vas-y.
J'ai lu un livre.
Bon, c'est toi qui me dis cette semaine, j'ai pris goût à la lecture. Parce que tu faisais de la lecture avant, tu as lancé ça, puis tu as recommencé.
C'est pas que j'en lis tellement dans le job, tellement dans mon travail au quotidien que... À un moment donné, on est saturé. T'sais, je lis des articles à journée longue, je lis plein d'affaires. Fait que le soir, j'aime ça décrocher. Puis là, c'est ça. C'est plate, hein? Mon père a écrit un livre qui a publié il y a à peu près un an et demi de ça. Je l'avais même pas lu. J'avais commencé à le lire, puis j'avais décroché. Je suis pas un lecteur, je prenais pas le temps de le faire. Finalement, ben, vous savez, j'ai eu mon petit péripétie, puis je me suis rendu à l'hôpital pendant 3 nuits, fait que j'avais du temps à passer. Fait que j'ai lu, puis là, je me suis rendu assez loin dans le livre de mon père pour me raccrocher, puis là, je l'ai complètement terminé. Après ça, j'ai reçu un autre livre, puis c'est là que je m'en allais, de Dieudonné Gassore. Lui, c'est... quelqu'un qui est rendu du côté d'Eléage, mais est originaire de l'Afrique. Il a vécu, c'est le Burundi, en fait, il est originaire du Burundi. Mm-hmm. Et ça, c'est à la frontière avec le Rwanda. Et le conflit qu'il y a eu, le génocide au Rwanda, ouais. Ben, il y a eu aussi un génocide au Burundi. En fait, le conflit, tu sais, il y a une frontière entre le Rwanda et le Burundi, mm-hmm. mais le conflit, lui, n'avait pas de frontière. Okay. C'est les Hutus et les Tutsis, puis il y en a dans les deux pays, puis il n'y avait pas de frontière. Donc, lui a eu à fuir cette horreur-là. Il est arrivé ici en 2002 au Canada, et là, il est établi à Déléage. Et je lui ai jasé parce qu'il a publié un livre qu'il a écrit à la suite du témoignage d'un de ses amis qui, lui, a vécu l'horreur. Là. Sa famille a été complètement décimée, pas sous ses yeux, mais presque. Puis il est revenu, en tout cas, il a vu des trucs qu'il aurait mieux aimé pas voir. Puis mm-hmm. le livre est intéressant parce qu'on ne va pas dans les détails. T'sais, on laisse l'esprit des gens.
L'imagination.
Ouais, tu sais, on n'a pas besoin de le dire vraiment ce qui s'est passé. Là, il donne des images, puis on voit un peu, OK, bon, c'est à peu près ça qui s'est passé. Tu sais, il ne rentre pas vraiment dans les détails glauques, puis c'est tant mieux. Mais c'est en tout cas, je l'ai bien aimé. Je l'ai dévoré en 3 jours, le livre. C'est pas bien épais, c'est 160 pages, peut-être. Mais je l'ai dévoré rapidement. J'ai jasé avec lui, et on vous en reparle à midi de ce livre-là. Puis ça va être d'ailleurs un sujet à l'heure juste demain, à l'émission d'Affaires publiques, parce que c'est vraiment intéressant, l'histoire. Tu sais, juste son histoire à lui, l'histoire qu'il décrit dans son livre, le cheminement qui a mené à tout ça, parce que c'est pas facile, là, c'est quand même des horreurs. Puis même si à un certain moment, il voulait plus le publier, il se dit, écoute, c'est-tu nécessaire de raconter ces horreurs-là? Puis il y a des gens qui ont dit, ben oui, justement. Tu sais, moi, je savais pas que le Burundi avait aussi vécu ce genre d'affaires-là, un génocide du genre. Je le savais pas. Maintenant, je le sais. En tout cas, je trouve ça intéressant comme lecture.
C'est intéressant, certain.
Je la suggère, c'est Au-delà de l'inimaginable de Dieudonné Gassore. Donc, on vous en reparle à midi. Demain aussi à l'heure juste. D'autres sujets également à l'émission. Demain, on va parler électrification des transports. Mm-hmm. Où est-ce qu'on s'en va? Parce que souvent, c'est la poule ou l'œuf. Est-ce qu'on s'achète une voiture électrique en se disant il n'y a pas beaucoup de bornes de recharge dans la région? On attend qu'il y ait plus de bornes pour acheter une voiture électrique. En même temps, le gouvernement... Ça va de pair. Eux, ils font ça en parallèle. Plus il y a de voitures qui se vendent électriques, plus ils installent des bornes. Fait qu'il faut pas attendre qu'un se fasse... Ça se fait en même temps.
Oui.
Et qu'est-ce qui arrive aussi avec l'agriculture, la machinerie agricole? Quand est-ce qu'il va y avoir des trucs plus verts en agriculture? Parce que là, on est très dépendant des énergies fossiles. Même chose pour le transport du bois. On en a déjà parlé sur nos ondes. Donc, jase avec quelqu'un d'Hydro-Québec, Jonathan Côté, porte-parole à ce sujet-là.
Est-ce que tu vois qu'on avance là-dedans?
Ben oui. Oui, okay. Oui, ça avance vite parce que je lui ai dit, est-ce que d'ici 2030, vous pensez qu'il va y avoir des camions semi-remorques, là, des gros camions pour le transport de bois, par exemple, sur nos routes? Il dit, ben rendu là, on va probablement être rendu à la deuxième ou troisième génération de ces camions-là.
Oh.
Fait que dans les prochaines années, il y a déjà Tesla, pour ne pas le nommer, l'entreprise qui est très avancée, qui va commercialiser bientôt un camion électrique, 100% électrique. C'est pour des grosses, tu sais, une grosse remorque, là. Un gros 18 roues. Complètement électrique, c'est fascinant. Il y a vraiment... Puis tu sais, il n'y a pas juste l'électricité aussi. En fait, avec l'électricité, on peut faire de l'hydrogène. C'est un procédé qui fait en sorte qu'on sépare avec l'eau l'hydrogène, le H dans le 2O. On isole le H, puis on peut faire avec l'hydrogène fonctionner des moteurs. Donc peut-être que c'est pas tout qui va fonctionner à l'électricité, mais ça sera plus avec des énergies fossiles. C'est de l'énergie renouvelable, c'est fait avec de l'eau.
Ouais.
Fait que... C'est là qu'il nous enligne aussi. Fait que c'était très, très intéressant. Puis, c'est quoi d'autre? On va parler aussi, du répertoire autochtone, des entreprises autochtones qui est sur pied. Il y a une trentaine d'entreprises de Kitigan-Zibi qui y figurent. J'ai parlé avec quelqu'un, là, Steve Laveau, du développement économique là, pour les Premières Nations Québec-Labrador. Puis, c'est franchement bien intéressant. Puis, on va faire un peu de pouce là-dessus aussi à la station parce que il y a 3 entreprises autochtones qui sont membres de la Chambre de commerce. Oui. De Maniwaki-Vallée de la Gatineau, ce qui n'est pas tant que ça, considérant qu'il y a...
Qu'il y en a une trentaine.
Ben, qu'il y en a une trentaine de membres du répertoire. Ouais. C'est pas dit qu'ils sont... Tu sais, il y en a peut-être plus que ça, puis ils ne sont pas tous dans le répertoire.
Okay.
Mais il y a déjà... Tu sais, ils ont un intérêt. J'ai parlé hier rapidement avec Mike McConnery de la Chambre de commerce, puis je lui reparle cette semaine, mais il y a un intérêt. Il y a d'ailleurs eu une rencontre la semaine passée entre le chef White Duck, la Chambre de commerce, là, donc Mike McConnery et le vice-président Michel Merlot, pour rapprocher les liens. Donc, ils sont conscients que... qui peuvent améliorer ça.
Il y a des choses à améliorer là-dedans.
Mais ils sont conscients de ça, puis ils veulent le faire. Puis ça passe pas mal par les communications également, là, parce tu sais, si tu parles en français, puis tu essaies d'aller voir des gens dont la langue d'affaires, c'est l'anglais, puis que tu parles pas un mot d'anglais, ben c'est difficile de tisser des liens. Mike McConnell est capable de parler anglais.
Ah, ben oui.
Fait que ça, tu sais, c'est peut-être un atout de plus dans la manche de la chambre de commerce. Bref, tout ça étant dit que...
Grosse émission, là.
On travaille, on travaille, on travaille, on chôme pas.